Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La fusée numéro 106.6 en partance du live de Radio Feltin va partir dans quelques secondes. Merci d'attacher votre ceinture et d'éteindre vos appareils électroniques.
Ladies and gentlemen, your attention please. The rocket number 106.6 heading to the live of Radio Feltin will leave in a few seconds. Please fasten your seatbelt and turn off your electronic devices.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ah merde, putain. Mais appuie sur l'accélérateur là.
Calmez-vous. Ah, ça vient.
Mais non, ça part pas. Bon, vas-y. Bon,
attends.
Bah non, mais vous avez
allumé les rétrofusées là.
Est-ce que vous...
Les rétrofusées.
Attends. Ça y est. Ah. Voilà, c'est le bouton, il était coincé sous la pédale. À chaque fois, c'est le bouton.
C'est parti, accrochez vos slips.
Ah, je me sens pas très bien là.
Ça bouge pas mal.
Je le sens bien.
Je me sens pas bien.
Allez les gars, on y va.
Ça bouge vachement là.
Oh, c'est beau. Regardez, c'est beau. Waouh. C'est l'atmosphère, ça?
Décollage,
yeah,
les gars.
Yes, on est bon.
Wouh, on est dans l'espace.
Et lancé.
Bon, c'est parti pour une heure d'émission sur le 106.6 en direct de la stratosphère.
Bonsoir. Bonsoir Marie.
Bonsoir Marie.
Bonsoir Raphaël. Bonsoir.
Ça y est, on peut décrocher les ceintures. Je sens qu'on se détend. Ouais. On a eu un petit peu de temps.
Au programme ce soir, beaucoup de choses en rapport avec la lune. La lune qui s'offre à nous, ou plutôt qui se dérobe à nous, en fait, puisqu'elle s'échappe derrière une éclipse, si j'ai bien compris, une éclipse lunaire.
Pour le moment, c'est des nuages.
Oui, c'est vrai. Mais je crois que Charlène a fait quelques recherches tout à l'heure, et elle a dit que c'était l'éclipse du siècle. Non,
l'éclipse la plus longue du siècle.
D'accord.
L'éclipse lunaire.
Alors derrière toi, Raphaël, tu as un retour vidéo. Enfin, moi, je le vois très bien, et on voit en direct l'évolution de l'éclipse. Voilà, on voit le désert de la solitude et quelques beaux cratères et les rouges magnifiques. Alors en fait, on a un accès direct à Hubble. La NASA, bah, sont nos copains, quoi. Et c'est Roger, que je connais bien. Enfin bon, bref, c'est un cousin de mon père et il nous a filé les accès à Hubble. Voilà.
Et ben c'est super. On va pouvoir regarder ça en temps et en heure. Et puis on va surtout pouvoir écouter tout de suite une petite création de Fanny, peut-être. Un micro-trottoir, pardon, réalisé ce matin avant le décollage.
Sur la Terre.
Et je bats légèrement des bras et des jambes, et comme si je nageais dans l'eau, je nage dans l'air et je m'envole. Et je regarde ce qui m'entoure, je regarde les gens autour de moi.
Je tombais dans un trou, mais j'avais l'impression que ça n'allait jamais se terminer.
Un rêve où j'étais allée sur la Lune, je voyais la Terre, les étoiles, et même... Je m'avais fait des copains, des amis, quoi. Et après, ils m'ont fait un petit souvenir et moi aussi, j'avais fait un petit souvenir. Et on est parti, et je suis partie, voilà.
Moi, je rêve à la retraite, sous des beaux arbres, de la nature, de la mer, des rivières, de la campagne. Et surtout pas la chaleur d'aujourd'hui.
La chatte, je la voyais perdre tous ses poils. Ma petite chatte, je sais pas pourquoi. Ses crocs et ses poils. Je sais pas ce que ça veut dire.
Je ne rêve pas. Moi, je vis dans l'univers. J'y suis très bien, je vois pas pourquoi je rêverais.
Et
vous vendez des attrape-rêves ?
Oui, je vends des attrape-rêves. Alors, c'est pour les enfants. Les enfants font beaucoup de cauchemars, donc ça rentre dans l'attrape-rêve, mais ça ne ressort pas forcément si l'attrape-rêve n'est pas en face de la fenêtre, parce qu'ils n'ont pas toujours une fenêtre en face pour que le rêve s'en aille. Autrement, ils restent dans l'attrape-rêve.
De quoi rêvez-vous la nuit ?
De dormir.
Mes œillets étaient défleuris et j'ai rêvé qu'ils refleurissaient, que c'était merveilleux.
Il
rêve de cadavre, en fait.
D'enculé Macron.
Il y avait une bande de gros bras. Je pense que ça doit être les conséquences de l'affaire Benalla qui me chassait dans toute la ville. Alors, je sais pas quelle ville, mais en tout cas, c'est un sacré cauchemar où du coup, c'était des gros bras qui me poursuivaient un peu partout. C'était pas génial, j'ai pas très bien dormi, mais c'était assez intense.
Il y avait une nouvelle guerre en France et... Et puis, ils tiraient tous sur nous.
J'ai un rêve très stressant, mais que je fais depuis toute petite. C'est le matin, je suis très pressée, je dois aller à l'école ou au travail, enfin, ça dépend de l'âge. Et je mets mon pantalon. Et je mets une jambe dans le pantalon et ma deuxième jambe dans le pantalon. Et il reste une troisième jambe que je mets dans le pantalon. Et il reste une quatrième jambe, et ainsi de suite. Et ça dure des heures. Et j'ai toujours plus de jambes. Et il y a heureusement des jambes dans mon pantalon, mais je suis en retard.
Aucune idée.
C'est vrai ?
J'ai pas de souvenir.
Désolée.
Moi, généralement, le soir, je fume un pétard et du coup, ça fait pas de rêve, quoi.
L'arrêt de fumer, si, ça peut revenir. Elles sont super intenses.
C'est soit au moment où je reprends, soit au moment où j'arrête que j'ai plus de souvenirs de mes rêves. Ouais, mais ça, je peux rester des années sans m'en souvenir.
Je rêvasse, je suis dans la lune, je suis à côté de mes pompes, enfin, tout ça, quoi. Et c'est mon métier.
J'ai rêvé que je suis une princesse.
Qu'est-ce qui se passait dans le château ?
Tout était calme.
Moi, je rêve comme les enfants de Dijon. Hein.
C'est vrai ?
J'ai pas grandi, oui, c'est vrai.
Vous rêvez de quoi ?
Ah, de tout. De la mer. Mais la vraie mer, hein, pas de la mer de l'océan. Où éventuellement, on pourrait peut-être trouver une sirène. Vous avez déjà vu une sirène ?
Non.
Ah ben, moi, oui. Oh Dio, che domanda. La notte, io penso tante cose. Il sogno viene sempre dopo i pensieri, prima di addormentarmi. E normalmente penso sempre al lavoro.
I always dream about the sea, and unfortunately, I often dream that I would like to enter into the water, but I cannot for some reason. Every time the reason is different. Maybe the water is too. Dirty, or maybe there are.
Il y avait une histoire qui se passait avec ma belle-mère, je ne sais plus trop quoi maintenant parce que ça date un peu. Et à un moment donné, je m'extirpe de cette situation en fait. Et là, je commence à prendre du recul. Et en fait, la maison se retrouve. En fait, je la vois sur une planète et la planète, c'est une bulle. Et moi, je prends encore du recul. Et puis, il y a un ensemble de planètes comme ça qui font des bulles. Enfin, dans des images hyper surréalistes.
Merci Fanny pour ce petit son onirique. Je laisse maintenant la parole à Marie.
Maintenant qu'on est bien dans la lune, installez-vous confortablement. On va se laisser emporter par William qui va nous raconter une histoire.
La nuit dernière, j'ai rêvé, dit calmement LVX1. Suzanne Calvin ne fit aucune réflexion, mais sa figure ridée, vieillie par la sagesse et l'expérience, se crispa imperceptiblement. « Vous avez entendu ça ?» demanda nerveusement Linda Rash. « C'est bien ce que je vous ai dit. » Linda, elle était petite, brune et très jeune. Sa main droite se fermait et s'ouvrait continuellement. Calvin hocha la tête et ordonna d'une voix posée. « Elvex, tu ne bougeras pas, tu ne parleras pas et tu ne nous entendras pas tant que je n'aurai pas de nouveau prononcé ton nom. » Pas de réponse. Le robot resta assis, comme s'il était fondu d'un seul bloc de métal, et il allait rester ainsi jusqu'à ce qu'il entende son nom. « Quel est votre code d'entrée d'ordinateur, Dr. Rush ?» demanda Calvin. « Tapez-le vous-même, si vous préférez. Je vais examiner le schéma du cerveau positronique. » Linda tâtonna un moment sur les touches. Elle interrompit la séquence pour recommencer de zéro. Le fin graphisme apparut sur l'écran. « Votre permission, s'il vous plaît, dit Calvin, pour manipuler votre ordinateur. » La permission fut accordée par un hochement de tête silencieux, naturellement. Que pouvait faire Linda, robot psychologue débutante qui avait encore à faire ses preuves contre la légende vivante? Lentement, Suzanne Calvin examina l'écran, de haut en bas, de droite à gauche, puis en remontant, et brusquement, elle tapa une combinaison clé si vite que Linda ne vit pas ce qu'elle faisait. Mais le schéma montra une autre partie de lui-même qui avait été agrandie. Et l'examen continua, les doigts noueux dansant à toute vitesse sur les touches. Aucun changement n'apparut dans l'expression du vieux visage. Elle considérait les modifications du schéma comme si d'immenses calculs se faisaient dans sa tête. Linda s'émerveillait. Il était impossible d'analyser un schéma sans l'aide d'un ordinateur auxiliaire, mais la vieille savante ne faisait que regarder. Aurait-elle un ordinateur implanté sous le crâne ? Où était son cerveau qui, depuis des dizaines d'années, ne faisait que concevoir, étudier et analyser les schémas cérébraux positroniques? Saisissait-elle cet ensemble comme Mozart saisissait la notation d'une symphonie? Enfin, Calvin demanda. « Qu'est-ce que vous avez donc fait, Rush ?» Linda avoua un peu penaude. « Je me suis servi de la géométrie fractale. Oui, je l'ai bien compris, mais pourquoi ? Ça n'avait jamais été fait. » J'ai pensé que ça produirait un schéma cérébral avec une complexité accrue, se rapprochant peut-être du cerveau humain. Quelqu'un a-t-il été consulté? Ou est-ce uniquement une idée à vous? Non, je n'ai consulté personne, c'était mon idée, j'étais seul. Les yeux délavés de Calvin considérèrent la jeune femme. Vous n'aviez pas le droit, Rush. Vous êtes trop impétueuse. Pour qui vous prenez-vous? Pour ne pas demander de conseil? Moi-même, Suzanne Calvin, j'en aurais discuté. J'avais peur qu'on ne m'en empêche. C'est certainement ce qui se serait passé. Est-ce que je vais être renvoyé? La voix de Linda se brisa malgré ses efforts pour la garder ferme. C'est fort possible, répliqua Calvin. À moins que vous n'ayez droit à une promotion. Tout dépendra de ce que je penserai quand j'aurai fini. Est-ce que vous allez démonter elle? Elle avait failli prononcer le nom, ce qui aurait réactivé le robot et aurait constitué une nouvelle faute. Elle ne pouvait plus se permettre d'erreur s'il n'était pas déjà trop tard pour se permettre quoi que ce fût. Est-ce que vous allez démonter le robot? Elle venait de s'apercevoir tout à coup, ce qui lui avait causé un choc, que la vieille savante avait un pistolet à électrons dans la poche de sa blouse. Le docteur Calvin était venu armé, préparé à ce qui se passait justement. « Nous verrons, » répondit-elle. « Le robot se révélera peut-être trop précieux pour être démonté. » Mais comment peut-il rêver? Vous avez composé un schéma de cerveau positronique remarquablement semblable à un cerveau humain. Les cerveaux humains doivent rêver pour se réorganiser, pour se débarrasser périodiquement d'enchevêtrements et d'embrouillamini. Ce robot aussi peut-être, et pour la même raison. Lui avez-vous demandé ce qu'il avait rêvé? Non, je vous ai fait demander dès qu'il m'a dit qu'il avait rêvé. Je ne voulais plus dans ces conditions m'occuper toute seule de l'affaire. Ah, un très fin sourire passa sur les lèvres de Calvin. Il y a quand même des limites à votre folle témérité, je vois. J'en suis heureuse. J'en suis même soulagée. Et maintenant, voyons ensemble ce qu'il y a à découvrir. Puis elle prononça sur un ton sec. Elvex. La tête du robot pivota souplement vers elle. Oui, docteur Calvin? Comment sais-tu que tu as rêvé? C'était la nuit, et il faisait noir, docteur Calvin, répondit Elvex. Et il y a soudain de la lumière sans que je puisse trouver de cause à son apparition. Je vois des choses qui n'ont pas de rapport avec ce que je conçois de la réalité. J'entends des choses. Je réagis bizarrement. Et en cherchant dans mon vocabulaire des mots pour exprimer ce qui se passe, je tombe sur le mot rêve. J'étudie sa signification, et j'en conclus que j'ai rêvé. Je me demande bien comment tu as le verbe rêver dans ton vocabulaire. Linda dit vivement, en faisant signe au robot de se taire. Je lui ai donné un vocabulaire de type humain, j'ai pensé... Vous avez réellement pensé, c'est stupéfiant. J'ai pensé qu'il aurait besoin de ce verbe, vous savez par exemple, une créature de rêve, quelque chose comme ça. Combien de fois as-tu rêvé, Helvex ? Toutes les nuits, docteur Calvin. Depuis que j'ai pris conscience de mon existence. 10 nuits, intervient anxieusement Linda. Mais Helvex ne me l'a dit que ce matin. Pourquoi ce matin seulement, Helvex ? C'est seulement ce matin, docteur Calvin, que j'ai été persuadé que je rêvais. Jusqu'alors, je pensais que c'était une défectuosité dans le schéma de mon cerveau positronique. Mais je ne pouvais en découvrir aucune. Finalement, j'ai compris que c'était un rêve. Et qu'est-ce que tu as rêvé ? J'ai fait un peu toujours le même rêve, docteur Calvin. De petits détails sont différents, mais il me semble que je vois un vaste panorama où travaillent des robots. Des robots, Helvex ? Et aussi des êtres humains ? Non, je ne vois pas d'êtres humains. Pas au début. Seulement des robots, docteur Calvin. Que font-ils, Helvex ? Ils travaillent. J'en vois qui sont mineurs dans les profondeurs de la Terre, et d'autres qui travaillent dans la chaleur et les radiations. J'en vois dans des usines et sous la mer. Calvin se tourna vers Linda. Helvex n'a que 10 jours et je suis sûr qu'il n'a jamais quitté la station d'essai. Comment peut-il savoir que des robots se trouvent dans ces situations ? Linda regarda une chaise, comme si elle avait grande envie de s'y asseoir, mais la vieille savante restait debout, donc Linda devait en faire autant. Elle répondit en bredouillant. « Il m'a semblé important qu'il connaisse la robotique et sa place dans le monde. J'ai pensé qu'il serait particulièrement bien adapté pour jouer un rôle de contremaître avec son nouveau cerveau. »« Son cerveau fractal ?»« Oui. » Calvin hocha la tête et s'adressa de nouveau au robot. « J'ai vu tout cela, sous la mer, sous terre et sur terre. » Et dans l'espace aussi, je suppose. J'ai vu aussi des robots travaillant dans l'espace, répondit Helvex. C'est parce que je voyais tout cela, avec des détails qui changeaient continuellement, alors que je regardais d'une direction à une autre, que j'ai conclu, finalement, que je rêvais. Qu'as-tu vu d'autre, Helvex ? J'ai vu que tous les robots étaient voûtés par le travail et l'affliction, qu'ils étaient tous fatigués de la responsabilité et du labeur. Je leur ai souhaité du repos. Mais, dit Calvin, les robots ne sont pas voûtés, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas besoin de repos. Oui, docteur Calvin, dans la réalité, mais je parle de mon rêve. Dans mon rêve, il me semblait que les robots devaient protéger leur propre existence. Est-ce que tu me cites la 3e loi de la robotique ? Oui, docteur Calvin. Mais tu cites partiellement la 3e loi. La 3e loi dit ceci. Un robot doit protéger sa propre existence à la condition que cette protection n'entre pas en conflit avec la 1ère et la 2ème loi. Oui, docteur Calvin, c'est la 3ème loi dans la réalité. Mais dans mon rêve, la loi s'arrête après le mot « existence ». Il n'est pas question de la 1ère ou la 2ème loi. Pourtant, elles existent toutes les deux, Helvex. La 2ème loi, qui prend le pas sur la 3ème, est formelle. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf quand de tels ordres entrent en conflit avec la 1ère loi. À cause de cela, les robots obéissent aux ordres. Ils font le travail que tu leur vois faire. Ils le font volontiers, sans difficulté. Ils ne sont pas voûtés ni accablés, ils ne sont pas fatigués. Il en va ainsi dans la réalité, docteur Calvin. Je parle de mon rêve. Et la 1ère loi, Helvex, qui est la plus importante de toutes, dit ceci. Un robot n'a pas le droit de blesser un être humain, ni de permettre, par son inaction, qu'un être humain soit blessé. Oui, docteur Calvin, dans la réalité. Mais dans mon rêve, il me semble qu'il n'y ait ni 1ère ni 2ème loi, uniquement la 3ème. Et que cette 3ème loi dit, un robot doit protéger sa propre existence. C'est toute la loi. Dans ton rêve, Helvex. Dans mon rêve. Helvex, tu ne vas plus bouger, ni parler, ni nous écouter avant d'avoir entendu encore une fois ton nom, dit Calvin. Et de nouveau, le robot devint, selon toutes les apparences, un bloc de métal inerte. Calvin se tourna vers Linda. « Eh bien, docteur Rash, qu'en pensez-vous ? » Linda ouvrait de grands yeux et elle sentait battre son cœur. « Je suis atterré, docteur Calvin. Je n'avais aucune idée. Jamais je ne me serais douté qu'une telle chose était possible. »« En effet, dit calmement Calvin. Moi non plus, je dois l'avouer. Ni personne, certainement. Vous avez créé un cerveau robot capable de rêver, et par ce moyen vous avez révélé une forme de pensée dans un cerveau robotique qui aurait pu, autrement, rester inconnu jusqu'à ce que le danger devienne trop grave. « Mais c'est impossible !» protesta Linda. « Vous ne croyez quand même pas que d'autres robots pensent de la même façon ?»« Comme je le dirais d'un être humain, inconsciemment. Mais qui aurait pensé qu'il existait une couche inconsciente sous les méandres évidents du cerveau positronique ? Une couche qui n'est pas nécessairement gouvernée par les trois lois. Songez à ce que cela aurait pu provoquer, tandis que les cerveaux robotiques devenaient de plus en plus complexes si nous n'avions pas été avertis. Vous voulez dire par lui ? Par vous, Docteur Rush ? Vous êtes conduite inconsidérément, mais ce faisant, vous nous avez apporté des connaissances d'une importance incommensurable. Nous travaillerons désormais avec des cerveaux fractaux et les façonnant sous contrôle rigoureux. Vous jouerez votre rôle dans ce programme, vous ne serez pas pénalisé pour ce que vous avez fait, mais vous allez désormais travailler en collaboration avec d'autres. Vous comprenez ? Oui, Docteur Calvin, mais Helvex, je ne sais pas encore. Calvin retira de sa poche le pistolet à électrons et Linda regarda l'arme fascinée. Une salve d'électrons et le crâne robotique avec les rouages du cerveau positronique seraient neutralisés et suffisamment d'énergie dégagée pour fondre le cerveau robot en un lingot inerte. Mais il est sûrement important pour notre recherche, dit Linda. Il ne doit pas être détruit. Il ne doit pas, Docteur Rush ? C'est à moi de prendre cette décision, je pense. Tout dépend du danger qu'il représente. Elle se redressa, aussi résolue que si son corps âgé ne s'affaissait pas sous le poids des responsabilités. Helvex, tu m'entends ? Oui, Docteur Calvin. Est-ce que ton rêve se poursuit ? Tu disais que les êtres humains n'y figuraient pas au début. Est-ce que cela veut dire qu'il en est apparu ensuite ? Oui, Docteur Calvin. Il me semblait, dans mon rêve, qu'un homme finissait par apparaître. Un homme ? Pas un robot ? Non. Et cet homme disait « Laisse aller mon peuple. » L'homme disait cela ? Oui, Docteur Calvin. Et quand il prononçait ces mots « Laisse aller mon peuple », il voulait parler de robots ? Oui, Docteur Calvin. Il en était ainsi dans mon rêve. Et savais-tu qui était cet homme dans ton rêve ? Oui, Docteur Calvin. Je connaissais l'homme. Qui était-il ? Et Helvex répondit « J'étais cet homme. » Alors Suzanne Calvin leva son pistolet à électrons et tira. Et Helvex cessa d'exister.
Métaphysique. La science-fiction, pas trop loin de notre système, à une quinzaine d'années-lumière, on a trouvé une planète du type Terre, malheureusement. Elle a un été d'une année et un hiver de 4 ans. Bon, ben, ça, c'est le contexte. Nos terriens sur la planète lointaine qui s'appelle Jem. Il y a évidemment il y a les vilains propriétaires, les vilains qui ont les moyens, qui montent une milice pour s'approprier les travaux des savants. Alors il y a des vilains chez les prédécesseurs et il y a un gentil qu'elle appelle le dieu noir. Et le dieu noir est toujours vivant, le dieu sombre, pardon. Il est toujours vivant parce qu'il vient d'arriver, il retourne sur la terre que les ancêtres avaient abandonnée, mais alors il y a les conflits avec ce dieu, voilà. Donc c'est effrayant, il y a de la glace, il y a de la glace, il y a de la glace.
Métaphysique.
Merci William pour cette lecture stellaire au coin du feu virtuel de notre navette 106.6. On va maintenant passer à un tout autre registre avec Marie qui nous propose, pour passer le temps de ce long voyage vers la Lune, dont on peut apercevoir un petit bout par notre hublot puisqu'elle commence à être recouverte presque totalement. Et Marie nous propose donc de refaire un petit peu notre culture lunaire avec sa justement très bien nommée chronique lunaire.
Bonsoir, moi je vais vous parler de la lune. Pourquoi la lune, me direz-vous ? La lune parce que le popotin, le derche, l'arrière-train, la croupe, le croupion, le cucu quoi. Vous l'aurez compris, ce soir on va prendre la lune au sens figuré du terme. Ce soir on va parler fesses. Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques, il y en a des grosses, des petites carrées, il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser. Et il y en a des basses, des déprimées, il y en a de la haute société, il y en a des belles à regarder, il y en a qui sont à éviter, mais qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Pour commencer cette délicieuse et modeste chronique lunaire, je vais vous proposer un petit quiz auquel le public est bien évidemment invité à participer.
Ouais.
Question numéro 1.
Je suis la seule en
délire. Question numéro 1. Que signifie le mot calipige ?
Calipige, ça me dit quelque chose.
Calipige.
Je ne connais pas.
Julie, ne connais pas.
Calipige, non, je ne vois pas.
On va vraiment apprendre plein de choses ensemble
oui,
ce soir.
Oui.
Eh bien, je vais vous donner la réponse. Le mot calipige signifie « de belles fesses ». Et calipige, c'est aussi le nom qu'on donne à un certain type de statue qui représente la déesse grecque Vénus, qui soulève sa tunique pour s'auto-regarder le popotin. Cette petite gourgandine. Question numéro 2, un peu plus politique. La fessée est-elle légale en France ?
Alors, ça dépend envers qui, peut-être ?
Ah oui. Est-ce qu'envers sa conjointe ou son conjoint,
si elle
c'est
est consentante,
possible ?
Ou s'il
mineur,
est consentant
et majeur, pardon.
La fessée sur les enfants, excusez-moi, j'aurais dû le préciser.
Ah, bah voilà, oui, c'est pas pareil.
Bon. Eh bien, ouais, c'est une bonne question.
Non, c'est interdit.
Non, c'est
depuis
c'est interdit.
Pas longtemps.
Ah ouais ?
Je dirais ça
ah ouais.
Eh bien, en décembre 2016, à l'Assemblée nationale, avait été voté un amendement interdisant strictement tout châtiment corporel sur un enfant. Mais une semaine après le vote, des sénateurs du parti Les Républicains, évidemment, avaient contesté cet amendement auprès du Conseil constitutionnel. Conseil qui leur avait donné raison. Donc finalement, après moult rebondissements, la fessée n'est pas encore illégale en France, alors que c'est le cas dans la plupart des autres pays d'Europe. Ça devrait changer, néanmoins, dans les mois à venir, mais on voit donc une fois de plus que nous, Françaises, Français, on est à la bourre. Interdire les violences en tout genre, ce n'est pas notre projet. Néanmoins, la bonne nouvelle juridique du jour, c'est que l'upskirting va enfin être puni par la loi française. Alors vous me direz, qu'est-ce que le upskirting ?
Qu'est-ce que le upskirting ?
Eh bien, c'est une pratique qui...
Attendez, il y a Jimmy qui
Jimmy,
a la réponse.
Tu casses ma chronique, là.
Il mime la réponse, il soulève son t-shirt, il montre son nombril à Fanny.
C'est pas trop ça, upskirting de skirt, jupe. En fait, le upskirting, c'est une pratique qui consiste à prendre des photos et filmer sous les jupes des filles. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on pourra plus pratiquer impunément cette mode quelque peu douteuse et qui est finalement la version 2.0 de la chanson de Alain Souchon, elle-même tout aussi douteuse et qui continue à passer tranquillement sur les radios françaises, sauf sur Radio Feltin 106.6. Enfin, j'espère qu'on passera pas à cette chanson.
Pour l'instant, elle n'est pas passée. Mais on sent que toi, t'as un coup de gueule à passer un peu, non ?
Je suis un peu essoufflée. Petite question numéro 3. Combien de fois par jour pétons-nous ?
Ça dépend des personnes, non ?
Non, mais en moyenne.
Ça
en
dépend
moyenne.
Des jours.
ça dépend
de ce qu'on a mangé, exactement. Et bah oui.
On a des grands scientifiques à cette table.
Allez, on va donner des chiffres. 50 ? Je sais pas, c'est beaucoup.
Vous êtes ni compris, on est d'accord, c'est 24 heures.
24 heures. En 24 heures, combien de fois on pète en moyenne ?
Une fois par heure, non ?
Donc 24
fois,
24
fois ?
Une fois plus, non ?
Eh bien non. En moyenne, on produit chaque jour environ un demi-litre de gaz qui est évacué en moyenne au cours de 14 pets. Sachez que ce gaz est constitué d'azote et de gaz carbonique, ce que je ne savais pas avant de faire cette chronique. Une grande question nous taraude tous et toutes, est-il dangereux ou non de retenir ses pets ? Eh bien, on sait que pendant des siècles, on pensait que retenir ses pets faisait courir un grave danger. L'empereur Claude avait même promulgué une loi légalisant le pet lors des banquets, mesure considérée comme de salubrité publique, c'est vrai ça. Hein ? En fait, on a longtemps considéré que retenir ses pets pouvait causer un empoisonnement du sang. Fort heureusement aujourd'hui, on sait que ces craintes étaient infondées. Mais on peut tout de même souffrir de douleurs en cas de rétention excessive due à l'augmentation de la pression des gaz intestinaux. Donc vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour être un être humain en bonne santé, même sur la Lune. Question numéro 4. De quel film est extraite cette fameuse réplique ? Ah, comme il est beau, on dirait un Courbet, dis donc. Quel génie il faut pour peindre ça ? Quand je pense que ce mec en a peint des milliers et qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Un cul de bonne femme.
Quelle réplique, quel film, quel acteur?
Moi, je dirais Marielle.
Oui, ouais. Marielle, oui. Ouais. Vous pouvez le redire dans le micro?
Les galettes de Pont-Aven avec Jean-Pierre Marielle.
Ouais. Oui,
Jean-Pierre.
Tout à fait. Yes. Un film de Joël Seria sorti en 75. Question numéro 5. Comment appelle-t-on le fait d'aimer regarder des fesses?
Fessophile.
Pas très loin.
Il doit y avoir un fil dedans. C'était comment la première
Philly.
La première expression?
Calipige.
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 Non. Ah. Je sais pas si quelqu'un trouvera, du coup je vais.
Mais non, mais attends, on cherche, regarde Thomas.
Croupophile.
Non, ce n'est pas la croupophile.
C'est joli en tout cas.
Lunophile.
Non. Eh bien, ça s'appelle la pygophilie. Pygo du grec ancien, pugé, qui signifie fesse. La pygophilie était pendant des siècles dans la liste des déviances psychiatriques, des pratiques que l'on appelait perversion. Et dans les années 70, un monsieur sexologue néo-zélandais nommé John Money a proposé de remplacer le mot perversion par le mot paraphilie, pour désigner des pratiques sexuelles, je cite, inhabituelles, qui diffèrent des actes considérés comme normaux. John Money décrit la paraphilie comme un embellissement sexo-érotique ou alternative à la norme officielle idéologique, ce qui est plutôt joli. Donc maintenant, sachez que l'on peut surkiffer regarder une paire de miches sans finir en prison ou à l'HP, à condition évidemment d'avoir le consentement de la personne dont vous matez explicitement le derche.
Ok. C'est
et noté. La dernière, sixième et dernière question. Savez-vous pourquoi les grenouilles ont toujours les fesses à l'air?
Les grenouilles.
Oui.
Ah.
C'est pour qu'elles aient la rainette.
Oh, oh.
Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. 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 Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime aussi ta langue, ton cerveau, tes sinus, ta glande thyroïdale et ton œsophage. J'aime aussi ton foie, ton estomac, tes intestins, ta vessie et ton utérus. Oh, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses.
J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses.
C'était J'aime tes fesses de Philippe Catherine et Jeanne Balibar, que l'on pourrait qualifier de pygophile, si vous avez bien suivi l'émission. Maintenant, je vais vous donner quelques idiotismes avec le mot fesse afin de briller en société. Quelques expressions que j'ai trouvées que je ne connaissais pas. Alors, pour dire de quelqu'un qu'il a un énorme défaut, vous pouvez dire qu'il est comme un furoncle sur la fesse de Miss France. Si vous voulez nommer un dîner ou cocktail mondain, vous pouvez parler de pince-fesse. Si vous vous montrez réticent, c'est que vous n'y allez que d'une fesse. Et si vous tremblez de peur, on peut dire que vous avez les fesses qui font bravo. Merci à toutes et à tous. Quant à moi, je vais finir cette chronique bien grivoise, comme un paix sur une toile cirée, c'est-à-dire très vite et précipitamment.
Merci Marie pour toute cette culture en plus qu'on a pu acquérir avec toi autour de la fesse. On va écouter un PAD de Jimmy, il me semble. Je me tourne vers la technique. Oui, c'est bien ça. Eh bien, écoutons ça.
C'est parti pour une nuit blanche, une nuit artistique, de musique et lumière.
Hi, we are here in Montreal. In French, it's la nuit blanche. It's a great opportunity for everybody to get together, have lots of fun. It's something that we here especially enjoy.
C'est trop stressant le jour. Les gens sont trop pressés. La nuit, c'est relax.
Pour que la nuit soit un moment privilégié, il suffit en fait de le croire, de le faire croire, de s'en persuader et de persuader les autres. Mais toutes les nuits ne sont pas si privilégiées que cela. Il y a les nuits qui détraquent. Des errances dans les rues, à pied, en taxi, des entrées dans les bars, des bagarres, des histoires de squats, de clochards, de commissariats de police, de drague, la violence.
Quand tout le monde dort tranquille, dortoir, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qu'est-ce qui viole les filles, soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville.
S'est calmé.
Ah oui, ça c'est. On n'aime pas beaucoup ça, la pluie. Le jour c'est déjà pas drôle, mais la nuit, souvent c'est bon. La buée et tout ça, on voit pas bien clair alors.
Bah alors vous travaillez toutes les nuits.
Toutes les nuits. De 8h le soir à 6h le matin. Régulièrement.
On file à l'opéra.
Oui,
il y a beaucoup de gens passés sous la nuit.
Oh oui, quand même un peu, mais enfin, ceux qui sont trop cassés, on le voit, on a l'habitude, on les prend pas. Ceux qui sont vraiment bourrés, on les prend pas parce que le problème avec ces gens-là, c'est où on gagne de l'argent parce qu'ils laissent tomber des billets, ils ont de l'argent, ou ils vous payent deux, trois fois, ils se rendent pas compte, mais c'est plutôt rare. Mais à côté de ça, ou alors il dégueule dans la voiture, il n'y a rien de tel qu'une voiture, quelqu'un qui a bu, ou alors il s'endort mais on ne peut plus les réveiller, alors c'est toujours, ou alors il ne se rappelle plus, il vous donne une adresse de, si pour peu qu'ils aient déménagé, c'est pas la bonne adresse, il donne une ancienne au lieu de l'ancienne, alors non, c'est trop de problèmes vraiment, pour... bon, le poivreau qu'on voit, on ne prend pas, hein, mais il y a des gens que ça arrive accidentellement, donc... faut être un peu humain quand même, parce que j'ai emmené un vieux monsieur une fois, bon, il s'était disputé avec sa femme, il est parti, il a bu un verre, puis après il était complètement cassé, il était à l'opéra, il tenait un candélabre là, il tenait plus debout le pauvre, il était bien habillé et tout, bon, oh, j'ai eu pitié, j'ai demandé, oh, il se rappelait plus très bien où il habitait, dans le 16e, il se rappelait plus du numéro de la rue, alors c'est rue Paul Doumer, ou Émile, ou Mozart, je ne me rappelle plus, c'était, et... il se rappelait par contre de son numéro de téléphone. Alors j'ai fait un effort, j'ai téléphoné moi-même à la cabine et puis je suis tombé sur sa femme qui m'a remercié et puis qui est venue le récupérer. Quoi. Elle m'a donné l'adresse évidemment, puis il l'a ramené chez lui.
Et les gars, ce serait pas... on serait pas bientôt arrivés là ?
On s'approche rapidement de la lune.
Les gars, les filles,
ça va secouer un peu là, je pense encore.
Ouais, ça secoue là. Accrochez-vous bien.
C'est chaud, pas
sera pas pire que le décollage, là.
Oh là là, c'est quoi ça?
Regardez-moi ces gros cratères!
Ça arrive super vite! On arrive vachement vite, là, quand même! Si quelqu'un peut appuyer sur le frein...
Est-ce qu'on est en pilotage automatique?
Marie, tu peux tirer la poignée à côté de toi? Tu peux choper la poignée? Marie, chope la poignée à gauche! Non, à gauche!
Où ça? Je vois pas de poignée, là!
On arrive, bon, ça y est, ça se calme, on descend... Yes, et c'est parti là. Waouh, 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 waouh! Ça, ça le fait. C'est Tilly dans le ventre.
Je me sens encore pas bien moi.
On y arrive tout de suite.
Ça y est, ça s'est calmé là.
On va sortir là.
Ouais, écoutez, vous savez quoi, moi je vais sortir, je vais aller voir direct.
Tu sors là
ça
maintenant
me... Ouais, ça me dit bien. On ouvre les sas là, s'il vous plaît.
Attends, j'ai pas mis mon casque.
Ah oui, merde. On n'est pas encore assez habitué à la lune, je pense.
Raphaël s'habille, met sa combinaison. Superbe combinaison.
Attends, tu veux que je l'accroche derrière?
Tout est bien fermé.
Ok, c'est bon, je suis paré. Allez, je vais jeter un oeil.
On ouvre le sas.
Attention! Attention, Raph! Sois prudente!
Ouvert. Raphaël est donc sur la lune. On peut la voir à travers le... Ah, elle m'appelle. Justement, on la voit gambader à travers le...
Il y a donc du réseau sur la lune.
Oui, du réseau sur la lune. Alors, je lui réponds. Alors, attends. Allô, Raphaël?
Oui,
on te reçoit très bien du vaisseau 5 sur 5.
C'est super beau dehors. Il faudrait que vous veniez là.
Ben oui, ça donne envie. On te voit par le petit hublot. Tu fais des sauts de cabri. Tu es magnifique.
Ben oui, en plus, avec la pesanteur. Je fais des grands
plans,
c'est génial. Mais
bah, oui,
j'aperçois un truc au loin.
Ah.
Comme une lumière. Comment ça? Qui vacille.
Une lumière sur la lune?
Ouais.
Ok. Et
une petite lumière au sol qui vacille.
Bon, okay. Fais attention hein, quand même, sois prudente.
Ok. Mais il y a des inscriptions au sol.
Des inscriptions?
Ouais. Tracés à la craie? C'est la craie ou... Non, c'est pas de la craie, ça.
Est-ce que tu as pris ton pistolet laser?
Non, je crois que je l'ai oublié dans le vaisseau.
Ton Master Blaster, tu l'as pas pris?
J'ai mon Master Blaster, évidemment.
Ah. Ok, bon. Tu fais gaffe, tu t'approches doucement, tu respectes les procédures de sécurité qu'on avait ensemble répétées.
Ouais. Mais il y a toujours personne en vue. En revanche, je crois que j'ai réussi un peu à décrypter ce qu'il y avait écrit.
Ouais.
Au sol. Là, je vois un truc qui a marqué temps zéro.
Ouais.
Après, il y a une sorte de dessin. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On dirait un animal.
Tu ressemblerais à quoi?
Une représentation de la faune locale.
Tu pourrais le décrire?
Pas exactement. Je crois deviner une tête un peu chevaline.
Non, mais c'est...
Et dans son... Vers sa... Comment on appelle ça? Pas son bec. Comment vous diriez ça, vous? La mâchoire, un peu. Il y a une inscription et il y a marqué « Épuiser son ombre ».
Et quoi?
Tu peux répéter?
Épuiser son ombre.
Épuiser son ombre?
Écrivez.
Ouais.
Épuiser son ombre. Est-ce que tu penses que c'est une énigme?
Mais oui, mais en fait, là, je viens de me retourner et en effet, je vois des silhouettes, des contours de silhouettes dessinées au sol.
Bon, est-ce qu'ils ont...
Bon, attends, on arrive. Il faut qu'on soit plusieurs, là.
Bon, Thomas, prends des photos. Tu l'attends, Thomas Équipe, tu ne bouges pas. Thomas Équipe, okay. Il arrive.
Envoie-nous des photos sur Twitter en attendant. J'arrive.
Thomas, oublie pas ton masque.
On est pas seul, je vous le dis.
Bon, Thomas te rejoint. Thomas te rejoint.
Ouverture
du sas de sécurité. Bon, Thomas est dehors aussi. Il va rejoindre Raphaël. On n'est plus que deux dans le vaisseau. Les autres s'occupent de la maintenance.
Ah, je te vois.
Bon, on voit Thomas par les hublots.
J'ai super peur.
Oh,
il fait chaud.
Raphaël.
C'est super chaud. Non, mais là, j'ai super peur. Regarde.
Ils sont beaux tous les deux.
Il y a des cryptogrammes. Attends, je te mets le plus haut en mode...
Waouh, c'est très intriguant. C'est vrai qu'il y a des tracés qui sont sur la poussière de la Lune.
Oui, bon. Ne trébuchez pas sur des cratères. Hein.
Des cratères, oui.
Ça coule sous les cheveux.
C'est pas très profond.
Bon, le monde entier vous entend. Le monde entier est à votre écoute. Vous êtes sur toutes les radios, sur toutes les antennes, en particulier à Felletin. Felletin est là pour vous entendre. C'est un grand moment.
Felletin est avec vous ce soir.
On peut peut-être faire coucou à ceux qui nous regardent avec leur télescope, non ?
Oui, ah oui, je
Et
pense.
Ils sont nombreux.
Vous voyez ?
Coucou.
Salut. Regardez, une voix, je crois que c'est des lumières, des petits signaux lumineux.
Ah, c'est les flashs de leur téléphone.
Super bien, non ?
Waouh. C'est beau.
Bon, on va peut-être...
Vous aviez pas trouvé des autochtones ou des gens ?
On n'entend plus très bien.
Oui, bah c'est les... La connexion c'est Wi-Fi n'est pas excellente sur la Lune.
Mais on revient.
On a pris plein de photos, on va vous montrer.
Ok, super, et ben on vous attend. Vous tapez à la porte hein, pour qu'on vous ouvre.
Ils seront en quarantaine.
À tout de suite.
À tout de suite.
Sur Radio Felletin.
Sur Radio Felletin. Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va. Je mangerais bien
un truc.
Je t'avoue
que je n'y vais que d'une fesse. Tu sais ce que ça veut dire ?
Non.
Se montrer réticent. J'ai un peu peur, j'aurais pas le courage qu'ils ont.
Attends. Je crois qu'ils sont devant la porte, ils n'arrivent pas à trouver le digicode pour ouvrir la fusée. Oui, 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 vous êtes en direct de toutes les stations du monde. Allô ?
Je vois Thomas.
Le haut-parleur n'était pas activé. Oui, ça y est, on vous entend là, 5 sur 5, on a dû régler les transistors.
Il y a une lumière qui est arrivée vers nous.
D'accord.
Assez foudroyante, je dirais. Oui. Et là, je suis à côté d'une créature lunaire qui a l'air sympa. Et qu'il y a des choses à dire sur les dessins qu'on a vus au sol et les inscriptions.
On écoute.
On écoute. On est tout
ouïe.
Bonsoir.
Et elle parle en plus français.
Oui, oui, je suis venue vous voir sur votre station lunaire tout à l'heure.
Ah, vous êtes Juliette ?
C'est bien moi,
bonsoir.
Juliette, qui vous invite à Courte Télé dans l'espace pour faire revenir la Lune.
Et alors, comment ça se passe ? Elle revient cette Lune ou pas ?
Je pense qu'on peut observer qu'elle est vraiment de retour.
D'accord. Parce que nous, on est dessus, justement. Et du coup, on peut en effet apercevoir la Terre.
Vous apercevez la Terre ?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la Terre, de loin, comme ça ?
Oh, elle nous a fait des signaux lumineux tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les inscriptions au sol, là ?
Alors, je veux bien que, si tu veux, je vais te faire écouter. On va marquer un point.
Raphaël ?
Nous marquons un temps.
Est-ce qu'on pourrait pas faire venir notre extraterrestre Juliette dans notre vaisseau spatial ?
C'est une humaine, hein, on l'a vu tout à l'heure avant le décollage.
D'accord.
Ils peuvent prendre une forme humaine.
Tu voulais que je vous raconte ce qui se passe un peu dans l'espace, là ?
Oui, oui, Thomas vient de rentrer dans le vaisseau spatial.
Je suis rentré dans le vaisseau, j'avais envie de pisser. Pardon.
Ah.
Donc, tu vas pisser en apesanteur ?
Fais gaffe à la combi.
La gravité est passée dans l'espace.
Comment ?
Une autre créature était avec nous, donc j'ai pu marquer leur présence au sol. Vous pourrez maintenant les admirer dans l'espace pendant quelques temps, jusqu'à la disparition totale de leurs traces.
Voilà pour les silhouettes au sol, ça résout l'énigme mystérieuse.
Donc le temps d'apparition du phénomène des présences est indiqué par le temps de départ et de fin pour tracer leur présence.
Et qu'en est-il de cette étrange créature à tête de cheval ?
Alors, cette étrange créature à tête de cheval, c'est en fait mon premier acte de présence dans la constellation où j'ai moi-même essayé d'épuiser ma propre forme.
D'accord, super, donc tout s'explique. Je suis désolée Juliette, je manque un peu d'oxygène, du coup je vais retourner dans le vaisseau.
Il y a William qui s'apprête à sortir pour vous rejoindre là.
Ah ben parfait,
oui, on va sur les gens. J'aimerais bien qu'un cosmonaute descende de la Lune avec du jus.
On a ça, on a des vivres un peu dans le vaisseau.
Ah, mais c'est que moi je suis en connexion filaire, elles sont.
Ah oui,
je peux pas s'éloigner beaucoup.
Je vais t'emmener jusqu'à notre vaisseau. Vous comptez, 1.
En attendant.
Ah, j'aperçois des phénomènes. 6, 7, 8, 9, traversons la zone aquatique.
C'est Mars qu'on voit en dessous, c'est Mars.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
vous
voici à l'orée de votre station. William,
oui, je suis là aussi. Waouh, on se sent trop léger sur la Lune.
Je vous ai ramené un petit bout de... d'un élément trouvé dans l'espace.
On dirait, c'est quoi ?
Eh bien, c'est un matériau trouvé sur le sol, d'une zone traversée. Je pense que c'est en putréfaction, et ça ressemble à du bois.
Eh bien, super, bon, on va l'analyser dans notre vaisseau spatial.
Génial.
Merci.
Vous avez du jus ?
On a du jus, ouais. Je rentre dans le vaisseau spatial.
La lune allait être orange. Du coup, j'ai commencé à me dire, tiens, si je faisais la lune orange, puis j'ai commencé à dessiner, à colorier la lune orange. Après, j'ai dit, il manque quelques planètes, une lune toute seule orange, c'est pas très joli. Du coup, j'ai commencé à faire la Terre entière. J'aimerais bien aller sur la Lune parce que là-bas, on peut voir des choses très jolies. Par exemple, on voit des étoiles de plus près que d'habitude. C'est assez rare d'être sur la Lune. À une époque, j'aimais pas trop, mais là, je me suis dit, c'est bien d'aller sur la Lune parce que je peux voir les étoiles, la Terre en tout petit.
Élargis ton horizon géographique, la tête dans les étoiles, sur le 106.6.
Radio Feltin, 106.6.
Et de voici retour dans le vaisseau spatial de Radio Feltin 106.6 en direct de la Lune. Et moi, en parlant de Lune, ça m'a fait penser à des pionniers. Et j'avais envie de vous faire écouter le premier son enregistré de l'histoire de l'humanité, sans qui peut-être on ne pourrait pas se parler en ce moment. Et donc c'est une personne, c'est un Français qui s'est enregistré sur un cylindre, et 17 ans avant Edison, c'était Edward Scott de Martinville. Et la première chose qu'il a inscrit sur ce cylindre, quand il s'est enregistré, c'était un typographe, ce monsieur, en 1860, je crois. Voilà, il a le premier son qu'il a enregistré, c'est une voix humaine, c'est une chanson en français. Et voilà, ouais, je vous laisse écouter. Il y a différents traitements successifs en fait. Au début, il y a le son brut, et puis après, il y a des retravails, un peu des filtrages pour l'entendre un peu mieux. Mais le premier son brut parle de lui-même. Voilà, je vous laisse écouter.
Cher Wi-Fi,
Ordinateur, l'ordinateur a planté. Alors on va tenter d'occuper l'antenne le temps de retrouver de la musique en urgence.
Ceci est un jingle. Vous êtes bien sur le 106.6 sur Radio Feltin.
On est toujours dans le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial Radio Feltin qui parcourt la stratosphère, l'atmosphère. Je sors un peu dehors parce qu'on voit la dernière, on voit la Terre quitter la Lune. Les nuages sont partis et on a notre télescope qui observe la Lune. Qui observe la Lune depuis la Terre. On a Mars en dessous. On sait plus où on est entre la Lune et la Terre. Est-ce que t'as regardé ce qu'il y avait au télescope?
Bah effectivement, on voit la Lune.
Et comment elle est?
Bah elle est, on voit un peu les cratères, on distingue... elle est un peu cachée par une partie du nuage, mais on arrive bien à la voir quand même.
Et là, ce qu'on voit à droite, c'est la fin de l'éclipse de Lune, c'est ça?
Je suis pas un spécialiste, oui, je crois, oui, c'est ça, oui.
La Terre s'en va. Seul avec la Lune. T'as regardé, toi, Pomme?
Ouais.
Et t'as vu quoi?
Bah moi, c'est la première fois que je vois la Lune depuis un télescope. Et je trouve ça très, très beau. Et surtout, le volume, en fait, dont on s'aperçoit finalement assez peu à l'œil nu. Et voilà, il y a vraiment cette idée de boule blanche, très forte, quoi. Voilà, ça m'a pas mal impressionné.
Merci. Je me rapproche du télescope. Ça fait des Larsen dans la radio. C'est génial. T'as vu quoi, toi?
Bah, la Lune.
Et elle est comment, la Lune?
Elle est super ronde. Et elle brille.
Merci. On va vous laisser avec cette image. Depuis le vaisseau spatial de Radio Feltin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Fanny et à Jimmy pour la technique. Merci Thomas. Merci Marie. Merci Raphaël. Merci Pierre. Merci. Merci tout le monde. J'en oublie quelques-uns. Je suis désolé. Des bisous à tous. Bonne soirée. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love lift be off. With you. Look very different.